Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, il est 6h à Paris, 7h à Beyrouth, 4h en temps universel.
Arnaud Pontus.
C'était RFI Matin et le journal avec Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Ah, bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une ce message, ou plutôt cette menace aux Libanais de Benjamin Netanyahou.
Libérez votre pays du Hezbollah, leur dit le Premier ministre israélien, sinon il connaîtra des destructions comme celles qui durent depuis un an maintenant à Gaza. Les frappes israéliennes s'intensifient au Liban et ont déjà fait plus d'un million de déplacés selon les autorités libanaises. Des déplacés également aux États-Unis, des évacuations en Floride qui se préparent au passage d'un violent ouragan baptisé Milton. Ça n'empêche pas la campagne pour la présidentielle de se poursuivre et Kamala Harris, la candidate démocrate, met les bouchées doubles dans les médias. Dans ce journal également, la visite du président français Emmanuel Macron dans un camp militaire de l'est du pays où sont formés quelques 2300 soldats ukrainiens. On va revenir aussi sur les résultats des législatives dans le Cachemire indien, le BJP battu, l'opposition en tête. Et puis un coup dur pour la littérature africaine, la fondation Orange met fin au POLA, un prix qui récompensait des auteurs et leurs éditeurs sur le continent africain.
Le Hezbollah dit soutenir les efforts du Liban en vue d'un cessez-le-feu.
Ah mais le mouvement chiite menace dans le même temps d'intensifier ses frappes si Israël continue à bombarder le sol libanais. Haïfa et d'autres lieux seront visés par nos roquettes comme le sont Kiryat Shmona et Metula, peut-on lire dans un communiqué qui cite ici des localités du nord d'Israël où les frappes du Hezbollah durent depuis un an. À Muriel Paradon, le premier ministre israélien de son côté menace le Liban de destruction comme à Gaza, dit-il.
Dans une vidéo en anglais postée sur les réseaux sociaux, Benjamin Netanyahou s'adresse directement aux Libanais. « Vous êtes à la croisée des chemins », affirme le Premier ministre israélien. « Si vous voulez retrouver la paix et la prospérité, vous devez vous débarrasser du Hezbollah. » Et il menace.
Vous avez une occasion de sauver le Liban avant qu'il ne sombre dans l'abîme d'une longue guerre qui provoquera des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza.
Une déclaration qualifiée de provocation par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui dit craindre le chaos au Liban si Israël met ses menaces à exécution. Il y a une semaine déjà, Benjamin Netanyahou publiait une vidéo similaire, adressée cette fois aux Iraniens. « Nous sommes à vos côtés », déclarait-il, leur promettant un avenir meilleur sans un régime, je cite, « de tyran ». Et là encore une menace, il n'y a aucun endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne peut atteindre pour se défendre.
Des menaces et des appels à la retenue sans effet pour l'instant. Selon l'Agence nationale d'information libanaise, plusieurs frappes ont provoqué des destructions massives hier dans plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth. Des frappes imputées à l'armée israélienne qui avait auparavant émis un nouvel ordre d'évacuation.
Et ces frappes israéliennes sur le Liban ont déjà fait plus d'un million de déplacés, d'après le gouvernement.
Leur situation se dégrade de jour en jour et ça inquiète de nombreux humanitaires des Nations Unies. Frédéric Hussig est le chef de bureau de terrain du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés pour Beyrouth et le Mont-Liban.
Aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il y a au minimum 600 000 personnes qui sont déjà déplacées. Le gouvernement parle déjà de 1 million. C'est énorme. C'est 20% de la population. À l'échelle de la France, ça ferait 13, 14 millions. Donc imaginez l'ampleur de ce déplacement. Les besoins les plus urgents, c'est vraiment de trouver des abris. Il y en a bientôt 900 de ces abris qui ont été ouverts au Liban, principalement des écoles qui ont été mises à disposition par le gouvernement. Souvent, il n'y a rien. Donc on leur donne des matelas, des couvertures. Il faut qu'ils aient des accès à la santé. S'il y a des centres de santé avec le ministère de la Santé, on les réfère pour qu'ils puissent les utiliser. La nourriture et tout ce qui sont aussi les services de ce qu'on appelle de protection, puisque les gens sont énormément choqués, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Il y a beaucoup de stress et peut-être de traumatisme aussi qu'on est en train d'essayer de gérer.
Et des propos recueillis par Eike Schmidt. Et puis les frappes israéliennes continuent aussi à Gaza. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, elles ont fait au moins 12 morts dans le nord et le centre de l'enclave, dont 9 membres d'une même famille.
Ce pourrait être la pire tempête du siècle en Floride, selon Joe Biden.
L'ouragan Milton, repassé en catégorie 5, la plus élevée, doit frapper cet État américain dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des vents pouvant aller jusqu'à 270 km/h. Toute la péninsule est sous une forme soit de surveillance, soit d'alerte, assure le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, alors que les évacuations ont commencé. Vous devez évacuer maintenant, c'est une question de vie ou de mort, assure le président américain, qui annule sa visite en Allemagne et en Angola, prévue en fin de semaine. Sa vice-présidente et candidate candidate à sa succession, Kamala Harris, appelle, elle, les habitants de Floride à prendre au sérieux les responsables locaux. Déclaration faite sur la chaîne ABC.
Et c'est l'une de ses nombreuses interviews du moment.
Oui, car la candidate démocrate à l'élection du mois prochain a souvent, c'est vrai, été critiquée pour sa prétendue frilosité à se plier à cet exercice de l'interview. Alors elle rectifie le tir. Pas moins de 5 apparitions télévisées ou radio en seulement 2 jours. À Washington, Guillaume Nodin.
Après l'effort, le réconfort, son marathon médiatique, Kamala Harris l'a conclu en partageant une bière avec Stephen Colbert dans son très populaire Late Show sur la chaîne CBS. Ce sympathisant démocrate assumé a permis à la vice-présidente de développer les sujets qu'elle aborde depuis le début de la campagne. C'est ce qu'avait fait avant lui la star de la radio payante Howard Stern, jadis connu comme un intervieweur pugnace. Même chose dans l'émission de la mi-journée sur ABC, où comme dans un meeting, l'ancienne actrice Whoopi Goldberg présente Kamala Harris comme la prochaine présidente des États-Unis avant qu'elle soit interrogée sur ce qu'elle aurait fait différemment de Joe Biden.
Il n'y a rien qui me vienne à l'esprit. J'ai contribué à la plupart des décisions qui ont compté.
Mais si elle est solidaire du bilan, elle doit aussi se distinguer du président et de son impopularité. Quelques instants plus tard, Kamala Harris rectifie.
Écoutez, je prévois d'avoir un républicain dans mon gouvernement. Vous m'avez demandé ce que serait la différence entre Joe Biden et moi. Ce serait l'une des différences.
Après cette sortie, la campagne Trump explique que Kamala Harris et Joe Biden, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et elle demande que les réponses de la vice-présidente la veille sur CBS soient montrées sans montage, alimentant un procès en incompétence et en complaisance des médias. Seul problème, Donald Trump, lui, a carrément refusé de participer à la même émission. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Et selon un sondage du New York Times, Kamala Harris serait légèrement en tête des intentions de vote à l'échelle nationale, 49% contre 46% pour Donald Trump, même si le système électoral américain ne garantit pas forcément la victoire à celui qui obtient le plus de voix. Ça dépendra en réalité des résultats dans les états clés.
Premier sursis pour le gouvernement Barnier en France.
La motion de censure déposée par la gauche a été rejetée, 197 voix pour, il en aurait fallu presque 100 de plus pour qu'elle puisse être adoptée. Le Rassemblement national a décidé de ne pas soutenir cette censure sans pour autant exclure de le faire dans les prochains mois.
Loin de l'agitation de l'Assemblée nationale, le président français Emmanuel Macron sera lui aujourd'hui dans l'Est de la France.
Dans un camp militaire pour un déplacement sur le thème de la défense, un camp qui forme quelques 2300 soldats ukrainiens. Une ampleur inédite au niveau européen, Franck Alexandre.
L'histoire retiendra que la brigade 155 de l'armée ukrainienne est née en France dans les camps de Champagne. Jusqu'à présent, les formations de soldats ukrainiens en Europe ne dépassaient pas le volume d'un bataillon, soit quelques centaines d'hommes. Cette fois, l'échelle n'est plus la même, car une brigade, c'est 2300 soldats. C'est une petite armée terrestre complète. Les 2300 soldats ukrainiens sont tous déjà arrivés, essentiellement des jeunes sans véritable expérience. En revanche, tous les cadres sont aguerris. La formation, qui durera plusieurs mois, se fera donc dans les conditions du combat actuel en Ukraine, avec des réseaux de tranchées reconstitués, des drones omniprésents et même le bruit de la guerre reproduit pour coller à la réalité. Surtout, l'ensemble du matériel destiné à armer cette brigade sera cédé. Les Ukrainiens repartiront avec, soit 128 véhicules de transport de troupes, dits de l'avant blindé, 18 chars légers MX-10, plusieurs canons César et des dizaines de camions pour la logistique. Un projet unique et ambitieux, qui a pour objectif, disent de haut gradé, de régénérer au plus vite l'armée ukrainienne, très éprouvée par presque 3 ans de guerre.
Et en Ukraine, justement, les autorités de la région de Soumy, dans le nord-est, annoncent la mort de 10 civils après une attaque attribuée à la Russie dans la ville d'Esman. Élection générale, parlementaire et présidentielle aujourd'hui au Mozambique. On suivra ça. 17 millions d'électeurs sont appelés aux urnes.
Le premier ministre indien Narendra Modi se dit fier du résultat du BJP dans le Cachemire.
Un parti pourtant battu lors des élections législatives dans cette région. C'est l'opposition représentée par le parti du Congrès qui l'a emporté. Le Cachemire, région agitée par des troubles et qui s'était vu retirer son statut d'autonomie il y a 5 ans. Et ce n'est a priori pas innocent dans ses résultats, Nicolas Roca.
Une large alliance et une forte participation ont permis à l'opposition d'emporter une courte majorité à l'Assemblée locale. Une mobilisation qui, pour Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, traduit l'opposition au BJP, le parti du Premier ministre indien.
Ça a été une opportunité pour faire entendre sa voix, pas forcément évidemment, en faveur du gouvernement de Narendra Modi et de son parti sur place.
Ce scrutin symbolique et attendu se termine en camouflet pour le pouvoir qui cherchait à entériner sa reprise en main de la région. Le parti du Congrès et ses alliés ont séduit en s'y opposant.
Le programme de la coalition, c'est bien sûr de redonner au Jammu et Cachemire le statut d'État de l'Union indienne et non plus de simple territoire de l'Union.
En 2019, Narendra Modi avait supprimé l'Assemblée locale puis retiré tout pouvoir à la région. En principe, seul Delhi pourra redonner un statut d'État au Cachemire.
Point d'interrogation, à l'avenir, est-ce que le statut de la région pourra se décider sur place, puisque maintenant il y a une assemblée élue, ou bien à New Delhi.
Au sein du parti nationaliste hindou de Narendra Modi, le contrôle du Cachemire reste un symbole. Plus de 500 000 militaires sont déployés pour mater les velléités d'indépendance.
Nicolas Rocard.
Nous sommes le 9 octobre et l'opération Octobre Rose continue.
Oui, un mois de sensibilisation mondiale pour inciter les femmes à faire des dépistages du cancer du sein et à récolter des fonds aussi pour la recherche. Des actions de prévention ont notamment lieu en France avec l'association Jeunes et Roses qui regroupe des jeunes femmes qui ont elles-mêmes été atteintes alors que chaque année dans le pays, 10% des cancers du sein sont diagnostiqués chez les femmes de moins de 40 ans, pour qui un diagnostic précoce est très important dans la voie de la guérison. Or, ce diagnostic, eh bien, il est encore trop lent, déplore Mélanie Courtier, cofondatrice de Jeunes et Roses, elle-même touchée par la maladie quand elle avait 31 ans.
Moi, j'ai été diagnostiquée tard pour deux raisons. Une était que moi-même, je ne connaissais pas les symptômes du cancer du sein. Donc moi, j'avais un mamelon qui s'était enfoncé sur lui-même, mais je n'ai pas capté au début que ça pouvait être un cancer. Quand j'ai signalé ce mamelon enfoncé, ben, on a pensé que c'était à cause de la grossesse. Et puis ensuite, on a pensé que c'était à cause de l'allaitement. Et puis ensuite, on m'a dit, ben, vous avez 30 ans, vous n'avez pas d'antécédents familiaux, ça va passer. Il y a eu tous ces éléments. Il y a eu un long moment entre le moment où j'ai vu les premiers symptômes et le moment où il y a eu le diagnostic de poser. Quand le diagnostic a été posé, il s'était écoulé entre-temps 8 mois. Donc mon fils avait 8 mois et mon aînée, elle avait 1 an et demi. Donc j'incrimine personne. Il y a un concours de circonstances qui a fait que... Mais en tout cas, le but de Jeunes et Roses, c'est de faire changer les choses là-dessus.
Des propos recueillis par Laurence Théo. Après le prix Nobel de physique hier, c'est celui de chimie qui doit être décerné dans la journée. Pour ce qui est de la littérature, ce sera demain.
Il n'y aura plus par contre de prix orange du livre en Afrique.
Le POLA qui récompensait des auteurs et leurs éditeurs sur le continent. Après 6 éditions, la Fondation française Orange y met fin, Olivier Roger.
Tant sur la forme que sur le fond, la décision de la Fondation Orange a interloqué les membres du jury du POLA. Le prix disparaît sans que la Fondation ait pris la peine d'en informer au préalable. Les membres du jury reprochent l'un d'entre eux, et encore moins les multiples comités locaux qui, dans les pays d'Afrique francophone, effectuaient l'indispensable travail de sélection des œuvres. Il a fallu des échanges de courriels outrés entre le jury, présidé par l'ivoirienne Véronique Tadjo, et la nouvelle déléguée générale de la Fondation Orange, Afida Genfoud, pour que celle-ci prenne sa plume pour justifier sa décision. La Fondation souhaite se recentrer sur l'éducation en milieu scolaire au travers d'associations. C'est son choix, mais elle abandonne au passage le seul prix africain à l'esprit décolonial, puisqu'il récompensait depuis 2019 un auteur et une maison d'édition du continent, un prix devenu en peu d'années aussi incontournable que sa déclinaison hexagonale, qui elle aussi disparaît après 16 éditions. Le POLA avait notamment mis en lumière l'autrice camerounaise Djaili Amadou Amal, qui par la suite a remporté le Goncourt des lycéens en France en 2020.
Olivier Roger, 6h13 à Paris, Arnaud Pontus, c'est à vous.
Merci Gaëtan Plenet, à tout à l'heure. RFI Matin, toute l'actualité de ce mercredi 9 octobre. On vous accompagne jusqu'à 10h. À la une, le Proche-Orient, bien sûr, et l'intensification des raids israéliens sur le Liban. L'offensive terrestre qui est menée dans le sud est même élargie. Le Premier ministre Netanyahou menace le Liban de destruction comme à Gaza. Le Hezbollah menace, lui, Israël d'intensifier ses frappe s'il continue de bombarder le Liban. La ville de Haïfa est sur le qui-vive. Nos envoyés spéciaux Oriane Verdier et Nicolas Benita ont vécu une alerte et une attaque hier avec des habitants du nord d'Israël.
J'ai vécu la deuxième guerre du Liban en 2006, mais ces dernières semaines sont bien plus intenses. Ma fille est à l'armée. Elle était en permission. Elle est rentrée à la base sur la frontière libanaise ce matin. Vraiment là où il y a la guerre. Alors comment est-ce que je pourrais être calme ? Ah, justement, ma fille m'appelle. Je vais lui parler.
Reportage à retrouver dans le journal de 8h. Le Proche-Orient à la une de la presse internationale. Les revues de presse avec Frédéric Couteau ce matin. Nous serons aussi aux États-Unis. La Floride se barricade avant l'arrivée de l'ouragan Milton, ouragan majeur. Peut-être la pire tempête en Floride en un siècle, a dit le président Joe Biden. Dans une heure, à la une en Asie. Aujourd'hui, la frontière entre la Corée du Nord et la Chine sous surveillance renforcée. Et puis la musique avec le coup de cœur des programmateurs. Ce mercredi, le chanteur, compositeur et producteur français Malik Djoudi. Malik Djoudi, viens, on prend le temps. C'est le choix des programmateurs de RFI ce matin et c'est en playlist. Nous prenons la direction de l'est de la Chine. La province de Shaanxi vit un vrai rebond économique et touristique depuis la sortie d'un jeu vidéo. Black Myth: Wukong a été publié le 20 août dernier. Le jeu s'inspire du roman classique chinois Voyage vers l'Ouest. Il suit un singe, inspiré de Sun Wukong, le héros du roman, et le tout dans des décors traditionnels, authentiques, d'où l'afflux de visiteurs. Reportage de Claire Broadhurst.
Voyage vers l'Ouest, c'est l'une des œuvres littéraires les plus populaires d'Asie de l'Est. Adaptée à de nombreuses reprises au cinéma, à la télévision ou au théâtre, Sun Wukong, le singe et son bâton, traversent la culture et s'est immiscé en Occident sous les traits de Son Goku, le personnage principal de Dragon Ball. Nous nous trouvons au temple de Huayan, un haut lieu touristique de Datong dans la province de Shaanxi. Depuis la sortie du jeu vidéo Black Myth: Wukong, le tourisme a connu des records. Les raisons ? Les décors du jeu s'inspirent largement des vieilles bâtisses traditionnelles chinoises de cette région, comme nous l'explique She, notre guide touristique.
C'est à Shaanxi que l'on trouve l'architecture la plus ancienne, datant d'avant la dynastie Tang. Que ce soit pour l'art en surface ou dans les souterrains, c'est à Shaanxi qu'il faut venir. Le climat et les conditions géographiques uniques ont permis à ces bâtiments anciens de rester intacts tout ce temps.
Dans un recoin de la cour principale, nous retrouvons de jeunes touristes venus exprès pour fouler les lieux que l'on retrouve dans Black Myth.
Je n'ai pas terminé le jeu, je ne peux donc en faire l'expérience que par le biais du tourisme. Je ne peux pas passer les niveaux, mes mains ne peuvent pas suivre.
Sur les 36 lieux repérés pour créer le jeu, 27 d'entre eux se trouvent dans le Shaanxi. Un jeune policier s'approche de la table où se trouve un tampon avec l'insigne de Wukong. Il sort un carnet blanc.
Ça, c'est le dépliant d'achèvement du jeu. C'est comme un passeport de l'histoire du jeu. Vous devez obtenir un tampon à chaque endroit.
Son supérieur le rappelle à l'ordre avec un sourire aux lèvres. Nous montons ensuite dans le taxi de Yue qui nous mène sur un deuxième lieu très prisé des touristes, les grottes de Yungang, où se trouvent près de 50 000 statues de Bouddha taillées dans la roche.
Ce jeu a vraiment boosté le tourisme culturel de Datong. C'est assez impressionnant. Grâce à Black Myth, le tourisme dans le Shaanxi est devenu très dynamique.
De retour à l'hôtel, on nous confirme que l'établissement est plein à craquer depuis cet été et pour les mois à venir.
Le jeu apporte incontestablement des avantages à la population locale en termes de retombées positives pour le gouvernement et surtout l'économie.
Datong était auparavant une ville pauvre qui reposait sur ses mines de charbon. Mais l'essor du tourisme change son visage car, comme le dit notre guide, si les ressources finissent par tarir, la culture, elle, est inépuisable. Claire Broadhurst, Xiang Yuan She, Datong, RFI.
Et en Chine, il est 12h18, 6h18 à Paris, 5h18 à Londres. La Grande-Bretagne est de plus en plus peuplée. La population britannique a augmenté de 1% entre juillet 2022 et juin 2023. 1%, ça peut paraître peu, mais c'est la plus forte croissance démographique pour le Royaume-Uni depuis 1971. Et on en parle avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin. Bonjour Emeline.
Bonjour, bonjour à tous.
On a compté 662 000 personnes de plus au Royaume-Uni. Cette augmentation, elle est due à l'immigration.
Et oui, parce que le nombre de Britanniques, lui, il diminue. Il y a eu plus de décès que de naissances sur l'année étudiée. Et c'est la première fois depuis les années 70. si on exclut l'année 2020 et la pandémie de Covid. Les experts de l'Organisme national des statistiques avaient bien prévu un solde naturel négatif, mais pas avant les années 2030. Dans le même temps, même si un demi-million d'habitants ont quitté le pays, ils sont deux fois plus à s'être installés ici, suffisamment pour contrebalancer le solde naturel et migratoire. C'est donc en raison de ces nombreuses arrivées que la population britannique a augmenté d'environ 600 000 personnes.
Et sur l'année écoulée, il y a eu près d'1 200 000 arrivées. Qui sont les nouveaux habitants et d'où viennent-ils ?
L'immense majorité des nouveaux arrivants sont des détenteurs de visas. Ils viennent principalement pour étudier ou pour travailler, plus marginalement pour rejoindre un membre de leur famille. L'ONS ne fournit pas de données par nationalité, mais on sait que l'immense majorité de ces titulaires de visas viennent de pays hors Union européenne. Les ressortissants de l'UE représentent à peine 100 000 arrivées. L'immigration au Royaume-Uni, ce sont également les demandeurs d'asile et les arrivées clandestines. Mais ces deux routes ne représentent qu'une minorité des arrivées, une centaine de milliers de personnes environ. Les réfugiés viennent en majorité d'Asie, Afghanistan, Iran, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Hong Kong aussi. Des nationalités qu'on retrouve également chez les candidats à l'asile qui traversent la Manche illégalement.
Et pourtant, Emeline, ce sont ces deux types d'immigration, l'asile et les arrivées clandestines, qui sont les plus scrutées, les plus commentées, les plus discutées par les médias et par les politiques.
Oui, souvenez-vous, le gouvernement conservateur précédent avait même le projet de mettre fin, de facto, au système d'asile pour dissuader l'immigration illégale. Alors le nouvel exécutif travailliste a adouci son discours, mais l'objectif reste le même, faire diminuer les arrivées clandestines, ce qui alimente les discours anti-immigration, pas toujours versés dans la nuance. On en a eu la preuve cet été avec des manifestations d'extrême droite et la multiplication d'incidents xénophobes et racistes. Compte tenu du solde naturel négatif dont on parlait, l'immigration pourrait s'avérer vitale pour soutenir une économie vieillissante. Pourtant, dès ce mardi soir, les journaux les plus à droite et les tabloïds s'alarmaient de la proportion croissante, je cite, de résidents nés hors Royaume-Uni au sein de la population, notamment de l'impact de ces arrivées sur des services publics sous-financés depuis des années.
Merci à vous, Emeline Vin, à Londres, la correspondante de RFI au Royaume-Uni. Il est 6h21 à Paris. À la une de l'actualité en ce mercredi 9 octobre, le Liban, à nouveau la cible de bombardements israéliens. Les militaires ont visé les localités de Baalbek, Tyr et les quartiers sud de la capitale Beyrouth, bastion du Hezbollah. Le premier ministre israélien menace les Libanais de leur réserver le même sort qu'à Gaza si le Hezbollah continue d'être soutenu par la population. Le Hezbollah, lui, annonce vouloir intensifier ses tirs de roquettes, notamment sur Haïfa, si Israël continue de bombarder le Liban. Aux États-Unis, la Floride se prépare à l'arrivée de Milton. L'ouragan est repassé en catégorie 5. C'est la catégorie maximale avec des pointes de vent à 270 km/h. Il devrait toucher terre dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce pourrait être la pire tempête à frapper la Floride en un siècle, d'après le président américain Joe Biden. Le président français Emmanuel Macron a rendez-vous aujourd'hui avec le ministre ukrainien de la Défense. La rencontre aura lieu dans l'est de la France. Il va rendre visite aux soldats ukrainiens formés en France. C'est la première fois qu'une brigade complète de 2300 hommes est formée dans le pays. Et voici notre invité culture du jour, c'est le cinéaste Boris Lochkine. Il est réalisateur de L'Histoire de Souleymane, un film doublement récompensé au dernier festival de Cannes dans la section Un Certain Regard, prix du jury et prix du meilleur acteur pour Abou Sangaré. L'Histoire de Souleymane, c'est le portrait d'un jeune livreur à vélo guinéen à la veille de son entretien de demande d'asile. Boris Lochkine est au micro d'Elisabeth Le Quéré.
Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles.
Ça sonne pas.
Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer.
Boris Lochkine, bonjour.
Bonjour.
L'histoire de Souleymane, c'est celle d'un livreur à vélo qui sillonne Paris. Alors, pas le Paris des JO, pas la ville lumière, mais un Paris hostile, en tout cas tel qu'il peut l'être aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas les codes.
C'est ça. En fait, le Paris que je filme, c'est pas mon Paris que je raconte. Je raconte le Paris de Souleymane. Et c'est un autre rapport à la ville. La ville, pour lui, elle apparaît comme étrangère, comme parfois menaçante, comme souvent dure. Voilà, c'est ce Paris-là que je raconte.
Vous avez fait un énorme travail documentaire, je crois.
Ben oui, je me suis beaucoup documenté avant même de commencer l'écriture du scénario, puisque comme je voulais raconter l'histoire d'un livreur africain, moi je ne suis pas livreur, je ne suis pas africain, donc autant se documenter. Donc je suis tout simplement sorti dans la rue, j'ai essayé de convaincre des livreurs de prendre des cafés avec moi. Donc il y en a plein qui m'ont dit oh, « non, je suis très pressé » ou « non, pas de journaliste ». Mais il y en a quand même plein qui ont accepté de s'asseoir avec moi. Et là, on a beaucoup parlé et ils m'ont raconté beaucoup de choses.
Abou Sangaré, alors il faut le dire, il a obtenu au Festival de Cannes le prix du meilleur acteur dans la section Un certain regard. Qu'est-ce qui vous a convaincu que Abou Sangaré serait votre Souleymane ?
Quand on reçoit les gens en casting, on leur fait faire des petits bouts d'essais, des petites improvisations, des choses comme ça. Et ça peut vous surprendre, mais moi, ce qui m'a convaincu, c'est un moment de silence. Et il se dégageait de lui quelque chose de puissant, profondément cinématographique.
Abou Sangaré, il n'a pas du tout le même profil que Souleymane. Déjà, il n'est pas livreur, mais il est lui aussi sans papier.
Quand j'ai rencontré Abou Sangaré, il était en train de demander sa régularisation. Et pendant le temps d'attente de la réponse de la préfecture, c'est là qu'on a tourné le film. Et au moment où moi j'étais déjà en montage, en fait, il a reçu la réponse de la préfecture qui malheureusement était une réponse négative. Mais fin août, la préfecture de la Somme, dont il dépend donc, a été enfin alertée sur le caractère particulier de la situation de Abou Sangaré et lui a offert de déposer une nouvelle demande. Donc cette nouvelle demande, il va la déposer dans quelques jours et j'espère que cette régularisation qu'il mérite, il va l'obtenir.
115 Paris, bonjour.
On sait prévoir une place pour ce soir, s'il vous plaît.
Pas stressé, reste optimiste.
L'histoire de Souleymane, Boris Lojkin, c'est l'histoire de tous.
C'est l'histoire de beaucoup de gens, effectivement. C'est l'histoire de quelqu'un qui n'est pas venu en France sur un coup de tête ou par caprice ou juste pour dire ah, je vais aller voir ailleurs comment c'est. C'est quelqu'un qui a une histoire dramatique, mais pas sûr que son histoire rentre dans les cases, pas sûr que son histoire corresponde à la définition française, juridique de ce que c'est que l'asile. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui ne rentrent pas dans les cases, qui n'ont pas de papier, mais qui ont besoin de travailler, qui sont dans la survie et qui sont face à ce mur des papiers, parce que beaucoup de personnes me l'ont décrit comme ça aussi, face à ce mur des papiers, c'est-à-dire que tant que vous êtes dans l'attente des papiers, tant que vous n'avez pas de papier, c'est comme si vous étiez en prison, vous ne pouvez même pas imaginer la vie derrière en fait. Vous ne pouvez pas regarder de l'autre côté de ce mur. Oui, ça raconte l'histoire de tous ces gens-là.
Boris Lojkin, merci beaucoup.
Merci Elisabeth.
Boris Lojkin pour son film L'histoire de Souleymane sur les écrans français. Dès aujourd'hui, il répondait à Elisabeth Le Quéré.
Le conseil santé avec Sounois Assurance.
Le conseil santé du jour, Caroline Paré et son invité parlent aujourd'hui des smart drugs.
Albert Moukaïber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des smart drugs, ces médicaments, ces pilules censées accroître certaines capacités ou compétences d'intelligence, des compétences de notre cerveau?
Oui, donc on assiste à une sorte d'approche psychopharmacologique pour booster nos compétences. Donc on abandonne un peu l'apprentissage, qui est devenu un peu has-been, pour une approche plus efficiente. On appelle les smart drugs, on les appelle, le mot technique, ça s'appelle des nootropes. On en prend tous, quasiment, le café est un nootrope, le thé est un nootrope, mais aujourd'hui on assiste à des pilules effectivement un peu plus potentes. C'est une sorte de publicité mensongère. Souvent, on pense que ce ne sont pas vraiment les facultés du cerveau qui sont augmentées, mais plutôt c'est des pilules qui vont moduler notre sensation de fatigue, notre sensation de sommeil, pour pouvoir se donner l'impression d'être frais pendant plus longtemps et donc, de manière un peu indirecte, sentir qu'on a nos compétences qui sont améliorées.
Est-ce qu'il existe par contre des supports qui sont de nature à stimuler, mobiliser nos compétences ?
Les stimulants. Donc on revient au café, au thé, c'est ce qui accélère un peu le rythme cardiaque, nous stimule les systèmes de l'éveil un peu plus.
Donc pas la peine de les acheter ni à la pharmacie, ni sur Internet.
Pas la peine, exactement. Après, il y a des personnes qui en prennent. La pilule la plus prise, qui n'est pas très en vogue en France, mais qui existe beaucoup aux États-Unis et on le voit commencer au nord de l'Europe, s'appelle le modafinil. Et c'est souvent des étudiants en médecine, par exemple, des étudiants qui veulent être concentrés pendant 7, 8, 9 heures, qui prennent ça. Je suis pas là pour juger, mais en tout cas, elles existent. Et certaines personnes en prennent, certaines disent « Ah, c'est super », d'autres, ça ne marche pas pour eux. En tout cas, c'est pas une sorte de pilule magique, un peu comme on a pu voir dans les films Lucy ou Limitless, où on voit une sorte de, vous devenez des sortes de génies. Si c'est ça que vous désirez, ça sert à rien de les acheter, absolument.
Ça n'existe pas. Albert Moukaïber, vous avez signé le livre Neuromania, publié chez Allard Édition. Aujourd'hui, au programme, prendre soin de sa peau, psoriasis, cicatrisation, eczéma ou acné, un dermatologue répond à vos questions. À retrouver à 9h10 et 1h10 en universel. À toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré et à tout à l'heure. RFI à suivre le journal Afrique en français, sauf si vous nous écoutez en Swahili en Afrique de l'Est. À tout de suite ou à tout à l'heure dans une minute.
Coula, coula, coula.
Couleur tropicale, Claude Issiard.
Le show afro de la radio au cœur des musiques pop et du panafricanisme. La jeunesse nous parle dans la génération consciente, la libre antenne. Les invités s'y expriment et répondent à vos questions. Le show afro de la radio, c'est couleur tropicale, Africa et ses diasporas.
Couleur tropicale, Claude Issiard.
S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.
Couleur tropicale, du lundi au vendredi, à partir de 20h10 TU. RFI.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.